Oui, bonjour, c'est Jean-Noël, à Saint-Léonard-des-Bois, la Sarthe. Je voulais appeler un témoignage par rapport aux antibiotiques. Moi, j'élève des cochons en plein air, j'ai la chance de pouvoir faire ce métier. Et j'ai discuté avec d'autres producteurs qui, d'office, quand les cochons sont malades, on leur colle l'antibiotique de réserve. Comme ça, ils sont vaccinés, et l'antibiotique, après, il passe chez l'homme. Voilà, voilà. Bonne journée.
Oui, bonjour. Je téléphone à propos de l'émission sur le problème des fleurs qui traversent le monde entier et qui sont extrêmement polluantes. Vraiment, c'est un problème énorme de ces immenses pépinières au Kenya, par exemple, où les gens sont exploités d'une façon absolument invraisemblable. Vous avez dit, effectivement, vous l'avez noté, qu'il y avait une pollution très, très massive du lac. Tous les pêcheurs ne peuvent plus pêcher, donc ils se retrouvent sans aucun moyen de survie. Et les agriculteurs, eux non plus, leurs légumes sont totalement pollués. Tout ça, ça fait plein de personnes, de familles qui doivent quitter les bords du lac et s'entasser dans des villes. Donc c'est un dégât sociétal absolument magistral, au-delà de la pollution. Ces milliers de kilomètres, les fleurs qu'on trouve à 2 euros le bouquet de roses ici en France. Donc je n'achète plus aucune fleur coupée depuis que j'ai vu un film qui s'appelle « Un business ». Florissant sur la culture intensive des fleurs au Kenya. Merci, au revoir.
Bonjour, Martial du Centre Bretagne. J'appelle par rapport aux voitures électriques. C'est vrai que le sujet est passé il y a longtemps, quoi, mais par chez nous, là, ce qui se passe, c'est que les postiers, les facteurs, le matin, avec leur voiture électrique, ils peuvent pas faire l'ensemble de la tournée quand il faut mettre le désembuage, le chauffage, les feux, les essuie-glaces et tout ça, en fait, quoi. Et donc, du coup, on s'est retrouvé à louer des voitures chez Europcar, des voitures essence, parce que les voitures électriques n'ont pas l'autonomie suffisante pour faire une tournée de facteurs par chez nous. Voilà, donc vive la voiture électrique. Bonne journée.
Mon cher Mathieu Vida, merci pour la qualité de votre émission. Je voulais savoir, comme nouvelle proposition d'émission, si vous aviez déjà fait une émission pour expliquer l'encyclique du pape François publiée en 2015, Laudato Si, où on parle bien sûr de toute l'écologie vue sous l'angle chrétien. Et notamment, est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de parler de l'écologie appliquée au corps humain, autrement dit, écologie intégrale? Ce serait quand même intéressant pour la diversité de vos auditeurs. Au revoir et bravo.
Bonjour, c'est Frédéric dans les Vosges. J'aimerais faire un appel aux candidats à l'élection présidentielle. J'aimerais bien qu'ils demandent à leurs supporters d'arrêter de coller des affiches, des autocollants n'importe où sur les ponts, les transformateurs, les panneaux indicateurs. C'est laid, c'est sale, ça pollue. En plus, ils ont la télé, ils ont les journaux, ils ont les réseaux sociaux, c'est déjà pas si mal. Merci.
Et merci pour vos messages qui arrivent tous les jours sur le répondeur de la Terre au Carré pour répondre à l'auditeur qui évoquait l'écologie intégrale. Eh bien, Camille avait consacré sa toute première chronique, c'était le 26 août 2019. En attendant, je vous redonne le numéro de téléphone du répondeur, c'est le 01 56 40 45 45. Nous sommes le 13 juillet 1995 à Chicago, aux États-Unis. Les habitants de la mégapole se réveillent dans une chaleur annonciatrice d'une journée torride. La température ce jour-là va atteindre les 41 degrés et la canicule va s'étendre au-delà des deux jours initialement prévus. Au cours de la semaine qui va suivre, 700 personnes vont périr de cette vague de chaleur qui deviendra l'une des plus meurtrières de l'histoire américaine. Cet épisode tragique a fait l'objet d'une enquête menée entre 1995 et 2000 par le sociologue américain Eric Klinenberg qui qualifie son travail d'autopsie sociale de la catastrophe. L'occasion de comprendre comment un simple épisode caniculaire a pu provoquer un tel drame sanitaire en mettant en évidence les dysfonctionnements de la ville. Eric Klinenberg est de passage à Paris et il est notre invité aujourd'hui dans la Terre au Carré. Bonjour à vous.
Bonjour.
On peut le dire en français puisque vous avez vécu quelques mois dans notre pays. Vous êtes professeur de sociologie, directeur de l'Institut Public Knowledge à l'Université de New York. Et donc votre ouvrage Canicule Chicago 1995 est publié pour la première fois en France aux éditions 205 avec l'École Urbaine de Lyon. Et c'est Marguerite Capelle qui va assurer la traduction de cet entretien. Bonjour Marguerite.
Bonjour.
Et puis à vos côtés se trouve la climatologue Françoise Vimeux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'IRD, vous travaillez au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et au laboratoire hydrosciences de Montpellier. On va donc revenir ensemble sur cet épisode caniculaire pour voir ce qu'il nous enseigne évidemment de ces vagues de chaleur dans le milieu urbain qui, on le sait, vont s'intensifier dans les prochaines décennies. Vous allez répondre aux messages des auditrices et des auditeurs, la page de l'émission, les réseaux sociaux et l'appli France Inter avec vos messages vocaux. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Passage au vert à 14h30.
Avec le climaticide
charbon, outil de communication des banques en particulier, hein, qui ont promis de ne plus rien financer qui y soit lié, raté des milliards encore en 2021, dont ceux du Crédit Agricole pointés du doigt par plusieurs ONG.
Allez, on en parle tout à l'heure à 2h30. Voilà pour le sommaire de l'émission, réalisé par Valérie Ayestara et préparé aujourd'hui par Chantal Le Montagnier, avec à la technique Raphaël Rousseau.
Mathieu Vidard, la Terre au carré, sur France Inter.
NBC 5, Chicago.
C'est la plus extrême température enregistrée par le système d'alerte thermique de Chicago. Quand la chaleur et l'humidité combinées donnent un indice de chaleur supérieur à 40 degrés, l'état d'urgence climatique est déclaré. Aujourd'hui, à l'aéroport Midway de Chicago, la température a atteint 43 degrés et pour au moins deux personnes, l'issue a été fatale.
Voilà un extrait de la NBC canicule à Chicago en 1995 qui a été diffusé dans le podcast Super Fail de France Culture de Guillaume Erner. C'était dimanche dernier et le sociologue américain Eric Klinenberg qui est donc aujourd'hui notre invité pour la sortie de son livre justement autour de cette canicule sous-titrée Autopsie sociale d'une catastrophe avec la climatologue Françoise Vimeux. Eric Klinenberg, on va tout droit dans le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Chicago dans cette semaine du 13 juillet 95?
Yes, well, first, thank you so much for having this conversation.
Merci d'engager cette conversation sur ce sujet. J'aurais bien aimé qu'on en parle en France en 2002.
Which is when the book first came
c'est
out in
le
English.
Moment où le livre est sorti en anglais.
We tried to tell the world and also
nous
France
essayons de dire au monde et à la France aussi qu'il fallait s'inquiéter de la chaleur, de la canicule qui arrivait. Mais les gens avaient du mal à y croire en 2002. Et puis ensuite, il y a eu la canicule de 2003.
In Chicago in 1995, the heat was extraordinary.
À Chicago, en 1995, la canicule a été extraordinaire. C'était 41 degrés Celsius, mais au niveau ressenti, c'était plutôt 52 degrés à cause de l'humidité extrême. Les villes sont des îlots de chaleur. Elles attirent la chaleur à cause du béton, à cause de l'acier, et la population piège cette chaleur. Donc, dans une ville, la chaleur demeure la nuit. Il n'y a pas ce rafraîchissement naturel qu'on observe la nuit. Ce qui s'est passé à Chicago, c'est que tout le système a explosé. Les infrastructures ont cessé de fonctionner, il n'y avait plus d'énergie, plus d'électricité. Dans certains quartiers, il n'y avait plus d'eau. On ne pouvait pas prendre un ascenseur, par exemple, si on était coincé dans un bâtiment, dans une tour. On ne pouvait pas fuir la ville parce que les rues étaient encombrées. Des milliers de personnes sont tombées très malades et 700 sont mortes. Donc, c'était une terrible catastrophe.
739 décès hein, qui sont donc attribués directement à la canicule entre le 14 et le 20 juillet. Il n'y avait pas eu d'équivalent dans l'histoire des vagues de chaleur aux États-Unis auparavant?
Il n'y avait pas eu de recherche en réalité sur ces vagues de chaleur, donc on n'avait pas de traces historiques de ces vagues de chaleur. Mais on pense maintenant que peut-être la chaleur a tué sans qu'on le comprenne depuis longtemps. C'est un petit peu comme mesurer le taux de décès qui est lié au Covid. Il y a les statistiques officielles avec les autopsies, mais il y a aussi tous les morts surnuméraires et ce taux qu'on on constate qu'il y a eu plus de morts, ça c'est plus fiable. Et pour ça, il faut des statistiques. Et donc, il a fallu du temps pour comprendre à quel point la canicule avait été mortelle. Un des éléments les plus frappants de cet événement, parce que moi je suis sociologue, c'est que pendant que des centaines de personnes mouraient à Chicago, le maire et les dirigeants de l'administration de la ville n'arrêtaient pas de dire que tout ça n'était pas réel, que ce ne pouvait pas être en train de se produire. C'est comme si c'était impossible d'y croire. Et je crois que c'est en partie parce que 1995, c'est le moment où on a commencé à passer à une nouvelle terre, à un nouveau climat. Nos esprits n'étaient pas encore capables de saisir ce qui nous arrivait.
Voilà, 1995, et au même moment, vous étiez à Paris, ça c'est le hasard, et d'ailleurs on pourrait écouter ce qui se disait à l'époque, parce que cette vague de chaleur a aussi concerné l'Europe, avec des conséquences heureusement moins dramatiques, mais voici un extrait du journal de France Inter que vous auriez pu écouter si vous aviez allumé votre poste cet été 95.
Dans un instant, confirmation de Jacques Kessler, le menu météo de demain se mangera encore brûlant, avec un cocktail de canicule et d'orage, une canicule qui aura si on peut dire, cueilli à froid la vague de touristes déferlant comme chaque été, le Nikon en bandoulière dans les rues de Paris. Sitôt descendu du car climatisé, il y en a qui se demandent s'ils sont bien en France.
Je crois que c'est fait beaucoup plus chaud ici que chez moi. Mais chez moi, il y a beaucoup plus de climatisation, donc ici, c'est très difficile pour moi, quelquefois.
C'est normal, il faut l'accepter, non? En Espagne aussi, on a... Il fait chaud, mais on est fatigué parce qu'on se promène beaucoup. Il y a des fontaines à Paris, alors on prend de l'eau des fontaines, hein, ça alors oui, j'en profite.
Voilà, et c'est donc depuis Paris, Eric Lindenberg, que vous avez entendu parler de la canicule qui se déroulait dans votre pays, hein, à Chicago.
J'étais à Paris cette semaine-là. Je vivais avec mon père, j'étais au sixième étage d'un bâtiment qui n'avait pas d'ascenseur, un bâtiment tout à fait typique de Paris. Et je me souviens que j'avais tellement chaud. Mais je n'ai pas lu d'articles qui parlaient de morts.
Amazing things about this event in Chicago.
Ce qui était incroyable avec cet événement à Chicago,
it was not just a weather event.
C'est que ce n'était pas juste un événement météorologique, c'était vraiment un événement social.
The heat wave in Chicago lasted only two or three days.
En fait, ça n'a duré que deux ou trois jours cette canicule à Chicago, alors que celle qui a eu lieu à Paris en 2003 en France a duré trois semaines.
It was an incredible killer because
Chicago has so much. Cette canicule de Chicago a été extrêmement meurtrière parce qu'il y avait énormément d'isolement social et de pauvreté. Et c'est vraiment la combinaison de ces facteurs sociaux et de l'événement climatique qui a créé ces risques que nous subissons aujourd'hui.
C'est le cœur de votre livre, hein. C'est vraiment la cause sociale finalement de ce désastre. Françoise Vimeux, 95, ça représente un épisode particulier dans l'histoire de la climatologie ou finalement c'est une canicule un peu comme une autre?
Alors c'est une canicule aux États-Unis importante. Aux États-Unis, si on prend depuis 1900 les 10 événements de canicule les plus importants, en fait on se rend compte que 8 d'entre eux sont après les années 2000. Et sur le 20e siècle, c'est les sécheresses, c'est les canicules des années 30-40, hein, c'est ce qu'on appelle les Dust Bowl. On a eu plusieurs années de suite avec des canicules extrêmes, en particulier 1934 et 1936. Et 1995 est répertorié comme une canicule assez classique, entre guillemets. Et en France, ça n'est pas le cas. En France, on a répertorié 27 canicules depuis 1947. Et sur ces 27 canicules, 20 canicules ont lieu après 2000. Et les canicules les plus marquées en termes d'intensité et de durée sont les canicules de 2003, donc entre 2 et 3 semaines suivant le département français, et la canicule de juillet 2019, alors avec la même intensité. Hein.
Ouais.
Et beaucoup de personnes parlent de la canicule de 1976 en France.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, 1976, c'est pas une canicule extrême par rapport à 2003 et 2019. En moyenne, c'est 4 degrés en moins. Et donc, on se rend compte que le ressenti aussi des gens évolue au fur et à mesure que le temps passe dans le cadre de ce réchauffement climatique.
Et justement, par rapport au ressenti des gens, on entendait même dans l'extrait dans le journal de France Inter en 95, il y avait presque une forme de légèreté, presque on souriait de la canicule, il fait très chaud, on va chercher de l'eau dans les fontaines, etc. Est-ce que du coup, à l'époque, ce qui pourrait peut-être aussi expliquer certaines conséquences, les gens avaient moins conscience du danger que ça pouvait représenter?
Alors je crois que sur le territoire hexagonal, la canicule de 2003 a vraiment été l'élément déclencheur, hein, où on s'est aperçu que la canicule pouvait tuer, hein, je rappelle, près de 20 000 morts en fait, enfin si on regarde tout l'été 2003. Et donc là, on s'est vraiment aperçu que les chaleurs extrêmes non seulement amenaient des décès immédiats, mais aussi dans le temps. Et c'est à partir en fait de ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir à comment s'adapter à ces canicules, hein, qui allaient évidemment s'intensifier à la fois en termes de chaleur, mais aussi de fréquence.
Françoise Vimeux, vous dites à partir de 47, donc on identifie plus d'une vingtaine de canicules en France. À partir de quel moment on peut vraiment les attribuer au réchauffement climatique? Alors, est-ce qu'on peut le faire, ça ou pas?
Alors, il y a des études, hein, d'attribution des canicules au réchauffement climatique. Donc, en fait, ces études, elles posent la question, est-ce que cet événement de température extrême se serait produit dans un climat non modifié par l'homme? Et si oui, quelle aurait été l'intensité de cet événement météorologique? Alors, par exemple, si on parle de la canicule de juillet 2019, il y a des études qui ont été faites par nos collègues du Centre National de Météorologie à Toulouse et qui montrent que cette canicule aurait été totalement impossible dans un climat non modifié par l'homme.
Mmh.
Et donc, toutes ces études d'attribution montrent par exemple qu'en Europe du Nord et en Europe de l'Ouest, depuis 1950, la plupart des canicules sont attribuables au changement climatique.
Ouais.
C'est un peu plus compliqué aux États-Unis, tout simplement parce qu'on a eu ces épisodes de caniculaire avant la Deuxième Guerre mondiale. Et les algorithmes mathématiques ont un peu de mal à attribuer l'ensemble des canicules au réchauffement climatique.
Eric Lindenberg, vous citez dans votre livre un article scientifique qui prédit que d'ici à 2080 à Chicago, des périodes caniculaires encore plus féroces et létales deviendront des événements annuels. Si la tendance climatique évidemment ne change pas, c'est une conclusion évidemment qu'on peut transposer à beaucoup de villes aujourd'hui dans le monde, hein, et en France aussi bien sûr.
Yes, and I think every reasonable assessment.
Et je crois que toutes les évaluations raisonnables nous disent de nous attendre à plus de canicules sévères, à des vagues de chaleur plus longues, y compris dans des parties du monde qui n'en ont jamais connu. Mais même à Chicago, dans les années 90, quand la chaleur arrivait, les médias ont traité l'événement exactement comme les médias français. C'était des sujets assez légers, une histoire amusante de personnes qui allaient se faire frire un œuf sur le béton, sur le bitume. Ça a pris longtemps avant qu'on prenne la canicule au sérieux, comme un risque de santé publique et aussi comme un risque fondamental pour les systèmes qui mettaient en danger nos systèmes, ceux qu'on a développés pour vivre notre vie moderne. Et une de mes préoccupations en tant que sociologue urbain, c'est que nos infrastructures, les structures de notre société, nos systèmes vitaux qui nous permettent de vivre, sont bâties pour un climat du 19e siècle ou éventuellement du 20e siècle. Et plus il fait chaud et plus les températures sont extrêmes pendant longtemps, plus il faut qu'on fasse les choses différemment. Et bien sûr, il faut développer les énergies renouvelables. Mais au-delà de ça, il faut trouver le moyen de rafraîchir les choses, de refroidir.
Eric Klinenberg, notre invité avec ce livre Chicago Canicule été 95 qui sort aux éditions 205 et la climatologue Françoise Himeux. Vos messages, ils arrivent déjà sur l'application France Inter.
Les rues comme mes poches sont vides. Les avenues si calmes sont l'air bolide. L'air est plus clair, paraît plus limpide. Personne ne joue, le temps est humide. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, sont les commerces, les glucides et ma monnaie, même timide. J'entends que la vie se vit sous vide. La mienne comme mes poches restent vides. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. De l'extérieur, rien ne vaut la vie, elle est splendide. Tant de sauver grâce à vous qui sortez courageux, solide. Faire un geste, un don rapide. Mais mes poches, comme les rues, restent vides. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil.
Sans sommeil, Gaëtan Roussel et Alain Souchon.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Le sociologue Eric Klinenberg est de passage en France. Il vient nous présenter ce livre qui sort enfin dans notre pays, quasiment 20 ans, c'est 20 ans même après être sorti aux États-Unis, Chicago Canicule, été 95. Pourquoi d'ailleurs, selon vous, on s'y intéresse maintenant? Pourquoi est-ce que ça a été possible de le sortir aux éditions 205 là, cette année?
Je ne peux pas expliquer pour le cas français en particulier, mais ce que je peux dire, c'est que quand j'ai écrit ce livre en 2002, quand il est publié, beaucoup de personnes m'ont dit « ne parle pas du changement climatique, c'est une théorie, on ne sait pas si c'est réel, tu es un sociologue, ne mise pas tout sur le changement climatique ». Et donc l'édition originale du livre parle très peu du changement climatique et du réchauffement climatique. Quand on pense à là où on en est aujourd'hui, c'est impossible d'écrire un livre sur la canicule sans que ce soit fondamentalement au fond, un livre qui parle aussi du changement climatique. Et donc, je pense que ce qui se passe dans le monde politique, dans notre culture, c'est qu'on commence à comprendre qu'on a créé une planète différente et qu'il faut qu'on agisse vite. Si nos dirigeants politiques y croyaient, ce serait bien.
Ouais. Et ce que vous dites, justement, c'est que la sociologie s'est emparée, grâce à vous, finalement, de ce sujet du changement climatique. Il y a des messages, Camille, à ce sujet.
Oui, justement, par rapport à ce que vous venez de dire, Sarah nous écrit par mail, incroyable d'écouter ce qui nous attend, alors que la plupart des futurs candidats à la présidentielle n'ont pas l'air d'en prendre la mesure. Françoise Vimeux, est-ce que les décideurs, est-ce que les gouvernants prennent tout ça au sérieux finalement ?
Alors bon, j'ai été signataire d'une tribune il y a quelques jours avec 1400 autres collègues, qui est une tribune totalement apolitique et non partisane et qui rappelle que les questions du changement climatique sont des questions éminemment politiques. C'est des questions socio-économiques, c'est des questions de santé, c'est des questions de sécurité. Comment assurer la sécurité des gens lorsqu'il y a un événement extrême, que ce soit une vague de chaleur ou des pluies torrentielles. Il y a d'un côté le climatologue, les scientifiques qui viennent mettre sur la table l'état des connaissances, ce que l'on sait et ce que l'on sait moins bien. Et puis, il y a toute la partie adaptation, mitigation, qui est en fait vraiment une question politique. Et une question qui doit être mise sur la table et avec différents scénarios possibles sur comment on prend le problème à bras-le-corps et comment on y répond.
Eric Linenberg, Barack Obama en 1995, il faut rappeler quand même qu'il est enseignant en droit constitutionnel à l'Université de Chicago, donc il vit lui-même cette canicule. Est-ce que cet épisode, selon vous, a pu jouer un rôle dans sa sensibilisation à la fois au réchauffement climatique et à la question des fractures sociales ?
I think yes, the experience of...
Oui. Je crois que d'avoir vécu à Chicago, d'être conscient des problèmes des quartiers noirs de Chicago dans les années 90, c'est quelque chose qui a aidé le président Obama à comprendre que la justice environnementale, et certains parlent même de racisme environnemental, c'est un véritable problème. Et pendant des années, on a pensé que l'écologie, c'était pour les Blancs, pour les gens riches, que c'était un luxe, une cause de luxe. Et dans les années 90, on a commencé à comprendre comment les inégalités sont extrêmement intriquées avec le problème du changement climatique. Quand je travaillais sur mon livre, j'ai lu énormément de choses sur les difficultés terribles qu'avaient affrontées les quartiers noirs pendant cette canicule. Les taux de décès étaient terribles alors que les quartiers riches en étaient mieux sortis. Au niveau mondial, ces inégalités sont encore plus profondes. Donc le problème de l'adaptation, dont parlait Françoise à l'instant, c'est aussi lié au financement qu'on va être prêt à donner aux pays en développement du Sud, qui ne sont bien sûr pas responsables des émissions de gaz à effet de serre, mais qui subissent les conséquences beaucoup plus terribles des inondations et des problèmes climatiques.
Et c'est d'ailleurs l'administration Obama qui vous a demandé de devenir directeur scientifique d'une structure qui travaille à la reconstruction de villes plus résilientes. Alors il faut justement décrire qui sont les premières victimes de cette canicule de 95. Vous dites que ce sont les habitants les plus âgés, les plus pauvres, les plus isolés et les Afro-Américains en tout premier. Qu'est-ce que ça nous dit finalement et quelles conclusions on peut en tirer ?
Yes, well, what one...
Un des problèmes de la canicule, c'est que la chaleur, c'est un assassin invisible et silencieux qui tue des personnes qui sont elles-mêmes invisibles et silencieuses, qui n'ont pas de voix dans notre vie publique. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles les canicules n'ont pas été au cœur de l'attention qu'elles méritaient, c'est justement parce que c'est invisible et que les victimes aussi sont invisibles. C'est très facile pour les puissants, pour les institutions, qui sont au pouvoir, de nier la réalité de cette souffrance ou de ce danger. Ce qui s'est passé à Chicago, c'est que les personnes qui pouvaient se payer la clim et qui avaient encore de l'électricité ont utilisé leur clim. Le maire, en fait, est parti en vacances pendant cette vague de chaleur. Et encore une fois, ce n'est pas une question de morale. Dans beaucoup de sociétés, y compris la France, l'été, les gens riches quittent les villes trop chaudes pour aller dans des endroits plus frais. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une politique dans notre culture, dans notre histoire, qu'il faut qu'on identifie une injustice dans le fonctionnement mondial. Certaines personnes peuvent échapper à la chaleur, à la canicule, alors que d'autres personnes sont coincées. À Chicago, en 95, l'effet a été dramatique. Et je crois que c'est pour ça que ce récit est si important, même 20 ans plus tard. Même 20 ans après la publication du livre. Je crois que c'est important aussi pour la France.
Et pour prolonger sur cette idée d'injustice, Françoise Vimeux, comment ça se fait que certaines canicules, alors on parle là en ce moment par exemple d'une canicule en Californie, pourquoi est-ce qu'on parle en fait des canicules souvent dans les pays développés et jamais de canicules dans des pays en voie de développement? Est-ce que certaines canicules passent inaperçues?
Alors là, je crois que il y a des vagues de chaleur de plus en plus et de plus en plus intenses partout. Après, c'est un choix de certains médias d'en parler ou de ne pas en parler. Après, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que
pardon, mais j'ai jamais entendu parler, par exemple, d'une canicule ou alors d'une canicule, par exemple, quelque part sur le continent africain.
Est-ce que si, par exemple, en Afrique du Nord, on en a beaucoup parlé l'année dernière. Des records de température ont été battus, par exemple, en Algérie ou au Maroc. On a aussi parlé de pays beaucoup plus à l'est, au Moyen-Orient, où des températures records étaient atteintes. Alors après, je pense que c'est un choix d'en parler ou de ne pas en parler. Ce qui est sûr, c'est que le changement climatique vient exacerber les événements extrêmes, dont les canicules et les vagues de chaleur, et que beaucoup de pays vont être touchés, que ce soit des pays du sud ou des pays du nord. Quelquefois, peut-être les canicules sont plus marquantes dans les pays du Nord parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de température extrême. Et puis aussi, il se passe que le changement climatique, l'augmentation des températures est amplifiée lorsqu'on va vers les hautes latitudes. Et donc, le changement moyen est plus important, par exemple, en Europe du Nord qu'en Europe du Sud. Et on sait, et c'est assez terrible, que le risque d'avoir une canicule et l'intensité d'une canicule ne sont pas proportionnels au réchauffement, c'est légèrement plus élevé. Et donc, on s'attend à avoir quand même des canicules assez importantes dans les moyennes latitudes et les hautes latitudes de chacun des deux hémisphères.
Est-ce qu'en France, en 2003, on peut dresser un même portrait des inégalités sociales face à la canicule, comme ce que vient nous dire Eric Klinenberg à Chicago en 1995?
Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste de ce qui s'est passé à ce niveau-là, mais ce qui est sûr, c'est que de manière générale, les événements extrêmes, pas que les canicules, viennent vraiment pointer du doigt les inégalités sociales. Avec d'abord les personnes qui ont la capacité de quitter la ville quand il fait trop chaud, c'est ce qui a été dit. Ouais. Aussi la capacité d'avoir des logements assez grands et de trouver une pièce qui va être plus fraîche qu'une autre. Et puis aussi des fois des gens qui vont avoir l'accès à l'information de comment on se protège des températures extrêmes.
Ouais. Eric Klinenberg, on en reparlera tout à l'heure, mais vous avez passé beaucoup de temps sur le terrain à fréquenter les personnes âgées vivant seules justement à Chicago, parce qu'il existe très peu de recherches justement sur le degré d'isolement des habitants des agglomérations urbaines. Et pourtant, c'est un vrai sujet. Et ça a été prépondérant dans cette catastrophe.
Yes, you know, I have said that
oui, vous savez,
the heat wave for a sociologist
j'ai dit qu'une canicule pour un sociologue, c'est un peu comme un accélérateur de particules pour un physicien. Ça accélère les choses, mais sans les modifier. En tant que sociologue, on peut se servir d'une canicule ou de n'importe quelle catastrophe pour comprendre comment fonctionne une société, quelles sont ses valeurs, comment elle se positionne par rapport à la vie, la mort. Et c'est pour ça que j'ai décidé de regarder de près les personnes les plus vulnérables et aussi les personnes qui ont montré une résilience assez étonnante. J'ai appris des choses surprenantes. Je crois qu'il n'y a rien de très mystérieux dans le fait, de très surprenant dans le fait que les gens les plus pauvres, les plus âgés, sont ceux qui ont eu le plus de décès. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait des quartiers de Chicago qui, sur le papier, paraissaient destinés à avoir des taux de décès très élevés, voire catastrophiques, et qui, en fait, ont fait partie des quartiers les plus préservés, les plus sûrs. Et en faisant cette recherche, j'ai compris la valeur de ce que j'appelle les infrastructures sociales. Par exemple, les lieux qui permettent aux gens de sortir dans l'espace public, qui permettent la solidarité, l'intégration, alors que dans d'autres quartiers, les infrastructures sociales étaient abandonnées et les gens ont été isolés à cause de l'endroit où ils vivaient.
Allez, on y revient dans un instant, on verra quelles leçons on peut tirer d'un tel événement dans un contexte où, on le rappelle, les canicules vont devenir malheureusement de plus en plus fréquentes.
France Inter. La Terre au carré.
Camille passe au vert avec son petit chat dans la gorge.
Et revoilà les banques dans l'œil du cyclone, pointées une nouvelle fois du doigt pour leur financement l'an dernier, 2021, à des projets pétrole et gaz tout neufs, hein, notamment BNP Paribas et HSBC en Europe, d'après l'association Share Action. Mais ce n'est pas tout. Un autre rapport paru ce matin s'intéresse au financement charbon, le pire du pire pour le climat, et révèle que depuis 2019, donc largement post-accord de Paris, avec une conscience donc assez développée, on va dire, des conséquences, n'est-ce pas ? Depuis 2019, donc, les banques internationales ont accordé 1500 milliards de dollars à l'industrie du charbon.
C'est des montants faramineux qui sont accordés à ces grosses entreprises à travers le monde qui sont impliquées dans les mines de charbon, dans les centrales à charbon, dans les infrastructures de transport de charbon, tout ce qu'on veut voir disparaître vu l'urgence climatique à laquelle on fait face.
C'est Yann Louvel qui parle, analyste des politiques des acteurs financiers chez Reclaim Finance, l'une des 25 ONG derrière ce rapport. Les 1500 milliards de prêts, obligations ou émissions d'actions viennent à 80% de banques chinoises, américaines, japonaises, indiennes, britanniques et canadienne, 6 pays, mais la France est aussi dans le tas.
Malgré les belles promesses qui ont été faites il y a plusieurs années, on n'est toujours pas là. Et pire que ça, on constate que malgré les politiques adoptées, elles continuent de financer des entreprises qui continuent de se développer dans le charbon, donc qui continuent d'aggraver le problème.
Alors pour la Team France, on a donc la BNP, Société Générale, Banque Populaire, Caisse d'Épargne et le Crédit Agricole que le rapport affiche bien comme il faut, hein, puisque c'était la première banque à annoncer fièrement dès 2016.
Nous ne finançons plus, à partir d'octobre 2016, ni les mines de charbon, ni les centrales à charbon, nulle part dans le monde.
Alors il y a la petite musique aussi, hein, puisque ça vient d'une vidéo officielle du groupe avec le directeur développement durable à l'époque. Et en juin 2019, le Crédit Agricole annonçait là aussi tambour battant sa stratégie climat avec, je cite, ce qui est écrit partout en gros et encore en vidéo, musique... La fin des relations, c'est écrit en rose, avec les entreprises dont l'activité charbon thermique est supérieure à 25% du chiffre d'affaires, qu'elles communiquent d'ici 2021 aussi un plan détaillé de retrait sur le charbon, et la fin des relations avec les entreprises développant ou projetant de développer de nouvelles capacités charbon thermique sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Fin de la musique. Belles annonces qui ont été saluées à l'époque par les ONG. C'est rare, mais badaboum.
On a découvert en 2021 qu'il y avait des transactions auprès d'entreprises comme Glencore ou Marubeni, Itochu ou EN+. Donc si on prend l'exemple de Glencore, c'est une entreprise qui prévoit encore une expansion de 45 millions de tonnes de charbon annuel avec dans 9 mines différentes en Australie et en Afrique du Sud. Donc on est encore très 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 loin de la fin du charbon pour Glencore.
Là, les gens qui nous écoutent, qui sont clients au Crédit Agricole, potentiellement, indirectement, ils ont financé tout ça.
Exactement.
Alors, dans le détail, c'est une émission d'obligations d'un milliard en février 2021 et un prêt général de 4,5 milliards en mars 2021 pour Glencore. Un prêt de 500 millions en février 2021 pour le japonais Marubeni qui construit, lui, trois nouvelles centrales charbon au Japon, Vietnam et Indonésie. 500 millions aussi pour Itochu en juin dernier, impliqué dans un projet controversé de centrale en Indonésie. Et enfin, un prêt encore de 200 millions pour EN+, producteur d'aluminium russe, qui utilise 5 millions de charbon et prévoit, comme les autres, de se développer. Alors j'ai appelé le Crédit Agricole, qui au passage enregistrait une année record pour ses bénéfices en 2021, on l'a su la semaine dernière, le Crédit Agricole qui me dit qu'il ne peut pas commenter les cas précis de clients et insiste sur le fait qu'il s'agit de prêts généraux, donc des prêts aux entreprises et pas directement aux projets. Et il souligne dans un mail que quoi, Mathieu ?
Eh bien, une période transitoire pour les années 2020-2021 est explicitement prévue avec une application progressive et que les financements pointés par le rapport relèvent entièrement de cette période d'observation qui vient de s'achever.
Autrement dit, ils considèrent, eux, qu'ils avaient jusqu'au 31 décembre dernier, sauf que dans leur stratégie climat, il était écrit à partir de 2021. Donc, aucun de ces financements n'aurait dû être accordé d'après Reclaim Finance.
En 2021, les entreprises devaient s'engager à ne plus développer aucun nouveau projet. Et donc, on voit que concrètement, ce n'est pas fait, ce n'est pas encore fini. D'où l'importance de ne pas s'arrêter uniquement aux effets d'annonce et d'aller regarder concrètement ce qui se passe après l'adoption des politiques pour voir ce qu'il en est et si les acteurs font bien ce qu'ils ont dit qu'ils feraient ou pas. En l'occurrence, pas.
Voilà, en l'occurrence pas. D'où l'importance aussi, souligne cette fois Laurette Philippot des Amis de la Terre, qui a également participé au rapport, d'encadrer les activités des acteurs financiers au regard des accords de Paris. Un contrôle par les États avec des sanctions à la clé.
On ne peut pas faire confiance aux banques pour fixer les règles, les mettre en œuvre et contrôler tout ça. La place financière de Paris n'a fait qu'accroître ses financements aux énergies fossiles depuis la signature de cet accord international. Et donc, en même temps que la communication, le greenwashing se renforce chaque année, on voit que les financements des banques françaises aux énergies fossiles se renforcent aussi. Et donc, c'est l'État qui doit trancher et qui doit jouer son rôle vis-à-vis de ces acteurs climaticides.
Alors, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, avait exigé en 2018 des engagements précis et contrôlés de manière indépendante. Sous peine, avait-il menacé de les rendre contraignants, mais rien à l'horizon et les ONG préviennent que le Crédit Agricole n'est que le premier de la liste à se faire afficher. D'autres devraient suivre dans les mois qui viennent.
Et c'est Camille Passauvert à réécouter bien sûr sur la page de La Terre au Carré.
Françoise Vimeux, vous confirmez le charbon aujourd'hui. Je disais, c'est le pire du pire en termes de climat. Voir qu'aujourd'hui des banques françaises et beaucoup d'autres dans le monde continuent de financer des entreprises liées au charbon. Quand on est climatologue, qu'est-ce qu'on se dit?
Alors, en tant que climatologue, je ne crois pas qu'il nous appartienne de commenter en fait hein, ce que font les banques. Je trouve en revanche que c'est important que l'information soit mise sur la table, hein, que voilà, de manière transparente, on sache finalement comment l'argent qu'on laisse est utilisé. Et après, oui, effectivement, tout ce qui est combustion des énergies fossiles participe encore à augmenter la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et participe encore à augmenter ce réchauffement. Et le dernier rapport du GIEC l'été dernier le dit bien, ce sont nos émissions aujourd'hui et à venir, dans les années à venir, dans la décennie à venir, qui vont contrôler en fait le degré de réchauffement vers lequel on va dans la deuxième partie du 21e siècle.
Ouais, ce qui nous laisse prévoir d'ailleurs des canicules inévitables, même si nos efforts commençaient aujourd'hui de façon drastique.
Hein. Alors clairement, même si aujourd'hui on arrêtait toute émission de gaz à effet de serre, l'inertie du système climatique fait que nous aurions encore des changements à venir
sur des décennies et des décennies.
Plusieurs décennies. Mais si on arrêtait tout aujourd'hui, par exemple, assez rapidement, on arriverait à stabiliser la concentration des effets de serre, des gaz à effet de serre, dans l'atmosphère et donc à stabiliser le réchauffement.
Vous avez raison de le dire parce que c'est maintenant qu'il faut commencer, exactement. Évidemment. Eric Klinenberg, vous vouliez réagir au sujet de Camille?
Just to say,
je voulais juste dire que la sociologie, bien sûr, s'intéresse énormément aux représentations et à la signification politique de ces représentations. Un des problèmes dans notre capacité à affronter le changement climatique, c'est qu'il y a des intérêts organisés, en particulier dans le secteur industriel des énergies fossiles, qui représentent de façon erronée leur attitude et leur comportement et l'impact qu'il a sur le climat. Donc ça retarde le moment où nous pouvons répondre et ça nous donne l'impression que ce problème n'est pas urgent. Et donc on se concentre sur autre chose. Donc je pense qu'en tant que sociologue, nous devons attirer l'attention sur ces fausses représentations. C'est vraiment tout à fait fondamental.
Et on a plein d'enseignements également à tirer de cette canicule de 1995, mais pas seulement toutes celles qui sont arrivées depuis aux États-Unis et en Europe.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Bonjour Vanessa de Reims, je vois votre nouveau sujet et effectivement je m'interroge. On sait que les maisons par exemple avec jardin en ville sont de plus en plus rares. Dès qu'une maison est en vente, une parcelle est en vente, elle est rachetée par un promoteur pour y installer des résidences avec pas d'espace vert, hein, beaucoup plus rentable, hein, beaucoup plus de logements. Et au lieu d'aller vers la végétalisation, c'est encore l'inverse que l'on constate dans les villes. Donc on a deux effets, effectivement la canicule l'été, avec des villes qui sont insupportables, mais également beaucoup de ruissellement et beaucoup plus d'inondations, puisque l'absorption des grosses pluies et de l'eau se fait très mal, de fait, puisqu'il n'y a plus de verdure, de parcs, d'arbres, de moins en moins. C'est embêtant. Bonne émission, merci.
Merci Vanessa pour votre message sur l'appli France Inter. Eric Lindenberg, vous souhaitez lui répondre ?
Yes, I worked with President
oui,
Obama's
j'ai travaillé avec l'administration Obama après l'ouragan Sandy sur un projet américain qui s'appelait Rebuild by Design, reconstruire, avec l'idée justement, précisément, de comprendre comment on peut créer des villes qui puissent mieux gérer justement les inondations et la canicule, parce qu'elles arrivent. Si j'avais un bouton magique et que je pouvais aujourd'hui interrompre les émissions de gaz à effet de serre, on aurait quand même un réchauffement climatique. Tant il y a de CO2 dans l'atmosphère. Et donc on essayait de trouver des moyens pour créer davantage d'espaces verts dans des lieux de très forte densité, par exemple des espaces verts à l'étage des bâtiments très hauts, construire des parcs pour avoir de l'ombre, en particulier dans les quartiers pauvres. À Los Angeles, il y a en ce moment une canicule et il y a de larges zones de la ville où il n'y a pas d'arbres. Et les pauvres attendent très longtemps à leur station de bus et souffrent de la chaleur parce qu'il n'y a pas du tout d'arbres et d'espace vert. Donc ça, c'est important. Et pour ce qui est de la gestion de l'eau, l'idée est de la façon de lutter contre ces changements climatiques et de gérer le temps. La question, c'est comment créer un système qui protège les personnes et qui soit un espace social en même temps, c'est-à-dire qui ne protège pas juste la terre, mais les personnes. À New York, le long du fleuve, on est en train de construire un système de parcs, par exemple, qui peut permettre d'empêcher les inondations liées aux tempêtes. Mais le reste du temps, c'est aussi un espace social, un espace vert partagé par les sociétés.
Et vous rappelez aussi dans le livre qu'en 95 à Chicago, il y a eu des coupures d'eau, hein, ce qui a été évidemment catastrophique pour des personnes qui en sont décédées. Camille.
Nathalie nous écrit « Notre adaptation qui consiste entre autres à mettre les climatisations ne fait qu'empirer ce phénomène ». Vous êtes d'accord, Françoise Bimeux, évidemment ?
Alors oui, ça n'aide pas parce que la climatisation, ça rejette de la chaleur à l'extérieur, donc ça participe à ce qu'on appelle les îlots de chaleur dans les villes. L'adaptation des villes, elle passe par la végétalisation, mais ça pose le problème de la disponibilité en eau lorsqu'il y a une vague de chaleur. Ça passe aussi par l'adaptation des bâtiments, donc des bâtiments mieux isolés, des matériaux qui vont davantage réfléchir en fait la lumière et la chaleur. Ça passe aussi, j'ai entendu par exemple des possibilités d'arroser les rues avec l'eau non potable pour rafraîchir l'ambiance. Donc il y a plusieurs voies d'adaptation pour nos villes et force est de constater, et le livre là le rappelle très bien, que nos villes aujourd'hui ne sont pas du tout adaptées aux événements extrêmes, hein, que ce soit des vagues de chaleur ou des pluies torrentielles.
Mais est-ce qu'il peut y avoir des configurations de villes plus adaptées que d'autres? Je ne sais pas, est-ce que Lyon serait plus adapté que La Rochelle ou que Paris ou que Marseille, vous voyez?
Alors en fait, la plupart de nos grandes villes, elles ont été bâties, je veux dire, il y a plusieurs siècles, donc elles ne répondent pas à ce qu'on attend aujourd'hui. Donc en fait, ce sont pour les nouveaux quartiers où il faut réfléchir à cette adaptation. Et puis sur les quartiers existants, comment on minimise l'impact d'événements extrêmes.
Eric Klinenberg, les Américains sont extrêmement friands de la climatisation. Est-ce qu'elle fait partie de vos programmes de villes résilientes ou elles sont justement totalement exclues?
Yes, the air conditioning.
Oui, la climatisation is an issue in the United States est un problème aux États-Unis.
Americans cannot get enough of it.
Parce que les Américains adorent ça.
More people around the world,
et malheureusement,
de
plus en plus de personnes dans le monde dépendent de la climatisation. Et il y a des endroits dans le monde qui deviennent inhabitables sans climatisation. Je pense à certaines parties de l'Iran, du Pakistan, de l'Inde, où la chaleur est en train de devenir tellement extrême que malheureusement, ça ne concerne plus seulement les Américains. Et bien évidemment, la climatisation n'est pas durable. C'est un domaine dans lequel on a aussi besoin d'un changement culturel qu'on n'obtiendra pas si on passe notre temps à dire qu'il y a un autre problème plus urgent. Je pense que le problème aujourd'hui, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on surestime le nombre de personnes qui nient le changement climatique. Plus les personnes accepteront que c'est réel, plus, en fait, on a l'impression que ce n'est pas urgent par rapport à d'autres problèmes. Donc, c'est aussi nous, pas seulement nos politiciens. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce qu'il faut faire pour survivre?
Et qu'est-ce que vous pensez de la géo-ingénierie que de grands noms américains, hein, on pense à Bill Gates, on pense à Jeff Bezos, etc., sont en train de promettre? En gros, c'est la technologie qui va aussi nous sauver. Vous parliez tout à l'heure de la nécessité de refroidir.
Yes. So I think the most urgent thing
is to shift our energy system and begin to use renewable energy sources as soon as we can at scale. Et à grande échelle. Mais je crois aussi que tous les modèles que nous obtenons de la part des organisations internationales, toutes les prédictions d'avenir durable incluent une part de capture du carbone, de géo-ingénierie. C'est une possibilité assez effrayante, parce qu'à partir du moment où on commence à expérimenter avec le climat mondial, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. En réalité, ça pose énormément de risques, donc je suis très inquiet de nous voir nous diriger vers ça, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas d'autre choix que de conserver cette possibilité pour l'instant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand je regarde le comportement humain, le comportement politique, j'ai peur que nous n'agissions pas assez vite.
Que dit la climatologue française, Françoise Humeux, sur la géo-ingénierie, justement? Parce que c'est vraiment un changement de culture, hein, entre les deux, sur la perception même.
Oui, la géo-ingénierie, elle fait certainement partie de la solution pour la mitigation, hein, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter. Donc ça fait certainement partie de la solution, mais ça n'est pas la solution à 100%. Voilà. Mais on peut pas rejeter de but en blanc des solutions qui pourraient aider en fait à réduire les émissions et la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Eric Klinenberg, vous rappelez qu'en 95, Chicago est l'une des villes les plus violentes des États-Unis, les plus dangereuses. Et les zones urbaines dangereuses, justement, vous le dites très bien, imposent des obstacles dans la mobilité de leurs habitants. C'est-à-dire concrètement que, par peur des violences, il y a un certain nombre de gens, les plus vulnérables, les plus vieux, qui n'osent pas sortir. Et ça a été dramatique parce qu'il y a eu un épisode d'homicide une semaine avant la canicule de 95, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui n'allaient pas dans les parcs pour se rafraîchir.
Yes, this is a book that's as much about cities.
Oui, c'est un livre qui parle autant des villes que du climat.
This is really the invitation the book gives
us. Et c'est vraiment à ça que nous invite le livre, c'est à réfléchir les villes, à réfléchir les sociétés, la politique et le climat de façon conjointe et de pas penser qu'il s'agit de domaines différents. Ce que j'aime beaucoup dans la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on parle entre scientifiques et entre disciplines et on a besoin de collaborer de cette manière-là.
La
violence est dangereuse Elle a un impact qu'on ne perçoit pas parce qu'on a vu ici là à Chicago dans ce cas présent que la violence crée un risque environnemental. Les personnes qui vivent dans des zones violentes sont plus susceptibles de se protéger en restant à l'intérieur. Et la plupart du temps, se planquer dans son appartement peut effectivement être une manière d'être en sécurité, mais quand il y a une terrible canicule, c'est ça qui vous isole et qui vous rend vulnérable.
Vous terminez votre livre en parlant des victimes non réclamées et qui ont fini enterrées dans la fosse commune. C'est d'une absolue tristesse. C'est Chicago en 1995. On pourrait d'ailleurs encore assister à de tels événements parce que vous montrez bien à quel point tous les services de sécurité d'entraide ont été totalement dépassés par l'événement. On était en plein été. Et clairement, il n'y avait pas assez d'aide présente sur place.
Oui, c'est une sorte de métaphore pour moi de l'histoire.
Enormous disaster happened.
Nous montre que quand des catastrophes énormes se produisent comme ça dans une grande ville du monde, à un moment où le pays est très riche, parce que les gens nient la gravité de l'événement au moment où ça se passe, encore après, alors qu'on a des centaines de morts et des cadavres qui n'ont même pas été réclamés, nous tournons le dos. Au lieu de leur rendre hommage, ils ont été enterrés dans une fosse commune est rendue invisible à jamais. Notre échec à apprendre de la catastrophe de Chicago en 1995, c'est la raison qui fait qu'on est là aujourd'hui. Et notre incapacité à apprendre, c'est ça qui nous empêche de faire ce qu'on sait qu'on doit faire maintenant pour affronter le changement climatique.
Allez, encore quelques questions avant la fin de cette émission pour vous dans un instant autour des canicules.
Je me suis acheté une machine qui ne fabrique rien. Je me suis acheté une machine à reculer le temps. Je la mets dans ma cuisine, pour les œufs c'est épatant. Il y a des lumières partout, le néon moi ça me rend dingue. Je les allume tout à coup, elles se reflètent sur le zinc. Je me suis acheté une machine à hydroflex.
Et la machine, c'est la voix de Dany sur France Inter. Allez, encore quelques minutes avec notre invité de passage en France, Eric Linenberg, sociologue américain, pour ce livre Chicago canicule été 95 aux éditions 205. Et puis Françoise Vimeux, climatologue. Camille, des questions?
Oui, Alban nous écrit sur franceinter.fr qu'il a lu qu'il y avait, on avait une sorte de mémoire météo, Françoise Vimeux, je crois 8-10 ans, on oublie un peu les événements. Il demande si ça couplait avec l'adaptation des organismes, hein, aujourd'hui on ne ressent pas 30 degrés comme on le ressentait avant, est-ce que ça ne peut pas participer malheureusement, une sorte de relâchement pour les canicules à venir.
Alors oui, c'est une très bonne question parce que en fait, par exemple, en France, sur le territoire hexagonal, entre 2015 et 2020, tous les étés, on a eu un pic de chaleur, une vague de chaleur ou une canicule. Et puis en 2021, ça n'a pas été le cas. Et on a entendu les gens dire, oh bah 2021, c'est vraiment un été pourri, c'est vraiment un été frais. En fait, c'était pas le cas. Les organismes se sont habitués, les gens se sont habitués tous les étés à avoir vraiment bien chaud. Et puis donc ça pendant 6 ans de manière consécutive. Et puis paf, il y a un été qui arrive et finalement, il n'y a pas de vague de chaleur et les gens s'en étonnent parce que pour eux, c'était devenu la normale, entre guillemets. Donc effectivement, moi je dirais qu'on a une mémoire qui est assez courte. en fait. Et on s'habitue plutôt rapidement. Et on a aussi une capacité à oublier des événements assez dramatiques, que ce soit la canicule de 2003 ou par exemple la tempête de 1999.
Alors qu'est-ce qu'on nous dit justement sur ces vagues de chaleur au cours des prochaines décennies? Qu'est-ce qui va les caractériser? Elles seront plus fréquentes, plus intenses, plus précoces, plus tardives?
Oui, alors exactement, on l'a déjà dit, elles vont être plus fréquentes. Elles vont être plus intenses et je l'ai dit, là, la fréquence et l'intensité ne sont pas proportionnelles au degré de réchauffement. Par exemple, dans un monde à 1,5 degré d'anomalie de température par rapport à la période pré-industrielle, on a des canicules en moyenne d'une intensité de 3 degrés en France, 3 degrés en plus. Elles vont être plus précoces et plus tardives. On en a eu des exemples en 2019, une canicule au mois de juin. En 2020, une canicule à mi-septembre. Et puis, elles vont être plus longues. 2003, c'est une des canicules les plus longues qu'on ait connues en France, un peu plus de 2 semaines. On pense qu'on aura des canicules jusqu'à 3-4 semaines.
Eh bien, super, merci pour ces nouvelles tout à fait réjouissantes. Eric Linenberg, pour terminer, est-ce que Chicago, depuis 1995, a connu d'autres très fortes vagues de chaleur comme celle-là ou pas?
Rien de comparable en termes d'événements climatiques.
En réalité,
la ville a commencé à agir et à se positionner dans les discussions mondiales sur la manière d'avoir un urbanisme plus vert. C'est un symbole de ce que les autres villes doivent justement éviter.
Est-ce que depuis l'épisode, et très rapidement, ça a pu servir justement à lutter par exemple contre l'isolement des personnes dans une ville comme Chicago ou pas?
C'est un problème beaucoup plus profond en réalité. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles les canicules sont de plus en plus dangereuses, ce n'est pas seulement le temps, la météo, le climat, c'est aussi parce que la société vieillit. Nous avons plus de personnes âgées et donc nous faisons face à cet isolement.
Merci beaucoup d'être passé dans la Terre au Carré. On était très heureux de vous accueillir. Votre livre sort enfin en France 20 ans après donc l'édition américaine. C'est aux éditions 205 avec l'école urbaine de Lyon. C'est Marc Saint-Huppéry qui a assuré la traduction de ce livre et Marguerite Capelle qui a assuré à tout coup la traduction,
Marguerite.
Parce qu'il
merci.
Faut le faire, une heure de traduction comme ça. Chapeau Marguerite Capelle, merci beaucoup. Françoise Himeux, à très bientôt, merci. Demain, rediffusion du Club de la Terre au Carré du 18 février.